Il est 6h.
Ça présage la quatrième vague, hein. On l'attend avec pas plus de moyens qu'avant, pas plus de personnel, pas plus d'ouverture de lit et des agents qui sont fatigués.
La détresse et la fatigue des personnels hospitaliers du Grand Est où l'épidémie flambe. Au niveau national, le cap des 1000 patients en réanimation a de nouveau été franchi. Les jeunes sont particulièrement touchés. Des centaines de tentes installées place des Vosges à Paris. Opération coup de poing dans les beaux quartiers pour dénoncer le mal logement. Et puis la chanteuse Billie Eilish sort un nouvel album aujourd'hui, 2 ans après le premier qui a connu un succès planétaire. À suivre, le regard international de Jean-Sébastien Soldaini, la Tunisie et le putsch autorisé et même salué par la population du président Kais Saied. Et puis notre rendez-vous d'histoire comme chaque matin avec David Castello-Lopez. Très bon réveil, il est 6h01. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Votre premier journal du matin, c'est avec Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Théo, bonjour à tous. Et on prend d'abord la direction des JO de Tokyo où Teddy Riner vient d'être battu en quart de finale de judo. Axel May.
Oui, c'est ce qu'on appelle une énorme désillusion pour celui qui visait un troisième titre olympique consécutif. Teddy Riner, après avoir remporté ses 2 premiers combats, a été éliminé en quart de finale par le russe Tamerlan Bashayev, alors qu'il n'est pas forcément connu du grand public, mais qui est quand même numéro 1 mondial. Ils ont été ce qu'on appelle au golden score, c'est-à-dire que le match s'est terminé, puis ensuite le temps réglementaire, et au golden score, Riner a été éliminé alors qu'il tentait de faire chuter son adversaire. Il s'est retrouvé sur le dos, éliminé. Alors, tout n'est pas totalement perdu puisqu'il va jouer maintenant les repêchages pour essayer d'aller récupérer une médaille de bronze. Mais quand on vise l'or olympique, une médaille de bronze, c'est toujours décevant. Et puis, matinée compliquée pour les Français puisqu'en BMX, on avait 3 Français en finale. Aucun n'est monté sur le podium. On aura l'occasion d'en reparler dans le journal de 6h30.
Axel May du service des sports d'Europe 1.
Il est 6h02. L'autre grand titre à la une ce matin, c'est évidemment la situation sanitaire. La vaccination est absolument indispensable, rappelle le Premier ministre, alors que le nombre d'hospitalisations continue d'augmenter.
Plus de 7200 patients ont été admis hier à Strasbourg. Le nombre de malades traités à l'hôpital a quasiment été multiplié par 7 en 2 semaines. Un reportage dans le Grand Est de Mélina Fachin.
Mi-juillet encore, seules 2 personnes atteintes du Covid étaient soignées aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Désormais, on en est à 14, dont 4 en réanimation. La situation reste donc encore gérable, mais ne présage rien de bon. Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses.
On a l'impression de voir l'orage arriver. En ce moment, on voit des patients jeunes, plutôt sans comorbidité, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'aucun des patients hospitalisés actuellement n'était vacciné.
L'hôpital est déjà sous tension, puisque qu'une bonne partie des soignants est en vacances et Sandrine Knockert, secrétaire générale de Sud Santé, appréhende beaucoup la rentrée.
Ça présage la quatrième vague, hein. On l'attend, avec pas plus de moyens qu'avant, pas plus de personnel, pas plus d'ouverture de lit et des agents qui sont fatigués. Je ne pense pas que 15 jours de congé annuel consécutif, les agents vont être reposés. Et les semaines à venir ne seront pas mieux pour eux, hein, ça c'est clair.
Sans parler de la pression que ressentent certains face à l'obligation de se faire vacciner au plus tard le 15 septembre, au risque de voir leur contrat de travail et leur salaire suspendu. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et face à la reprise de l'épidémie, la Réunion et la Martinique se reconfinent dès ce soir. 3 premiers patients de Fort-de-France, où les services hospitaliers sont saturés, seront transférés demain à Paris.
La progression du variant Delta qui inquiète aussi aux États-Unis.
Dorénavant, tous les fonctionnaires fédéraux américains devront être vaccinés ou se soumettre à un strict protocole sanitaire, test hebdomadaire et distanciation sociale. L'été de liberté promis par Joe Biden semble loin. Alexis Guilleux, la question de la vaccination commence également à faire son chemin dans le secteur privé.
Oui, et ce sont les entreprises de la tech qui veulent montrer l'exemple. Google et Facebook ont annoncé mercredi que leurs employés devront être vaccinés avant leur retour au bureau prévu à l'automne. Le directeur général de Google espère même étendre dans les prochains mois cette obligation à d'autres salariés dans le monde. Chez Netflix, le vaccin devient également obligatoire sur les plateaux de tournage pour les productions américaines. C'est une première à Hollywood. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un dispositif légal. Un employeur peut obliger un salarié à se faire vacciner. Dès le mois de juin, d'ailleurs, 2 figures de Wall Street, la banque Morgan Stanley et le gestionnaire d'actifs BlackRock, ont fait savoir qu'ils exigeraient de leurs employés qu'ils soient vaccinés. Le sujet devient désormais incontournable alors que les États-Unis luttent contre la propagation du variant Delta et que de nombreux salariés sont encore en télétravail. Enfin, des initiatives sont également prises dans le secteur de l'hôtellerie. Danny Meyer, propriétaire d'une 10aine de restaurants à New York et à Washington, a annoncé que ses employés et les convives devront montrer leur statut vaccinal.
Allez. Alexis Guilleux.
6h05, retour en France où Valérie Pécresse occupe le terrain pour rassembler derrière sa candidature.
Et depuis qu'elle a déclaré sa candidature à la présidentielle via la primaire de la droite, l'ancienne ministre occupe le terrain. Son objectif, être la mieux placée à la fin de l'été pour porter les couleurs de la droite. Louis Dragnel, Valérie Pécresse va présenter aujourd'hui son plan pour en finir avec les ghettos urbains.
Alors, ce matin à Dreux, chez Olivier Marleix, Valérie Pécresse veut décliner ses propositions sur l'autorité, la mixité et la réussite, explique son entourage. Concrètement, elle devrait évoquer la question de l'intégration de populations souvent issues de l'immigration qui vivent dans des quartiers où se concentre la misère économique et sociale. La présidente de la région Île-de-France a l'intention d'expliquer son projet de ne plus financer le logement très social, c'est-à-dire à très bas loyer, dans les quartiers où il y en a déjà plus de 30%. À titre indicatif, dans certains quartiers, le logement très social peut atteindre jusqu'à 80% du nombre total des habitations. En clair, elle veut mettre en valeur une forme de seuil anti-ghetto, sans oublier de valoriser le travail des associations de quartier et de tous ceux qui investissent dans les emplois locaux. Après ce déplacement, prochaine étape à Clermont-Ferrand, chez Brice Hortefeux, pour parler d'agriculture et d'entreprise, et ensuite Marseille sur l'environnement. Une campagne pour la primaire de la droite qui ressemble beaucoup à une campagne présidentielle.
Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Cette opération coup de poing à Paris, près de 450 sans-abri installés dans des tentes sur la très chic et très touristique place des Vosges.
Une initiative du collectif Réquisition qui réclame des conditions d'hébergement dignes et pérennes. Les sans-abri sont répartis en trois espaces, famille, hommes seuls et mineurs isolés. Océane Théard s'est rendue sur place.
Des dizaines de tentes collées les unes aux autres, entourées par des boutiques de luxe et des hôtels particuliers. La scène étonne Riede, un jeune touriste venu des Pays-Bas.
D'habitude, dans un tel quartier, un des quartiers les plus luxueux de la ville, avec toutes les grandes marques, elles ont toutes leurs magasins ici. Les gens pauvres, on ne les voit pas, mais ça ne m'embête pas du tout.
Un emplacement en plein cœur du Marais, loin d'avoir été choisi au hasard, comme l'explique Kéril Teria. Il est un des porte-parole de l'association Utopia 56.
Ces personnes qui vivent à la rue sont invisibles toute l'année. En général, elles sont réparties dans certains quartiers de Paris ou alors dans le nord de Paris, en banlieue nord, et complètement cachées. Le but, c'était aussi de pouvoir visibiliser dans un quartier un peu plus chic, entre guillemets.
Parmi ces invisibles, il y a Diatou, allongée dans sa tente, avec à côté d'elle tout ce qu'elle possède, un sac plastique avec un peu d'eau et de la nourriture.
Je ne sais plus où dormir. J'ai dormi dans les hôpitaux. Avant-hier, j'étais à la gare de Lyon. À 5 à 6 ans, c'est encore plus dur pour moi. Donc si je trouve là où dormir, ça va très bien.
Tous ont le même espoir que le retentissement de cette action leur permette d'accéder plus vite à un logement pérenne.
Océane Théard.
Il s'agirait d'un simple accident, mais il est dramatique. Une voiture a percuté la terrasse d'un café hier soir à Paris.
Un bilan, un mort et 6 blessés, dont un grave, le passager de la voiture. Les faits se sont produits vers 22h30 dans le 17e arrondissement de la capitale. Le véhicule en cause a fait un tonneau avant de percuter la porte du bar au sport. Le conducteur a pris la fuite à pied.
Il est 6h08 sur Europe 1. Si vous êtes fumeur de cigarettes électroniques, écoutez bien, l'OMS alerte sur les dangers qu'elle représente.
Dans son rapport publié cette semaine, l'organisation mondiale de la santé rappelle que la nicotine présente dans ces cigarettes est très addictive et que les inhalateurs électroniques sont nocifs. Des mesures doivent donc être prises pour les réglementer et dissuader les nouveaux utilisateurs, surtout les jeunes, Johanna Chabas.
Empêcher la nouvelle génération d'être accro à la nicotine, c'est l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé. Dans son rapport, elle pointe du doigt les techniques de l'industrie du tabac pour rendre la cigarette électronique attractive, avec notamment les arômes donnés au produit. L'OMS recense 16 000 parfums différents, un moyen de séduire les jeunes, selon le pneumologue et président du Comité national contre le tabagisme, Yves Martinet.
Ces arômes, c'est pas pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. Ces arômes, c'est pour séduire les enfants, pour que les enfants passent à l'addiction à la nicotine. C'est-à-dire les parfums vont masquer les risques addictifs de la nicotine et le caractère désagréable aussi de consommer de la nicotine.
Comme l'OMS, Yves Martinet estime qu'il faut plus de réglementation. D'abord s'assurer que l'interdiction de vente aux mineurs est respectée, puis il demande à ce que les mesures mises en place pour la cigarette traditionnelle soient étendues à la cigarette électronique, avec une taxation par l'État des produits et une interdiction dans les espaces recevant du public.
Johanna Chabas pour Europe 1.
Alors faut-il mieux réglementer ces e-cigarettes en France ? Attention à ne pas trop pénaliser un outil qui reste essentiel. essentiel dans la sortie du tabac. C'est ce que nous dira le professeur Bertrand Dotzenberg, chantre lui aussi de la sortie de la cigarette. Il sera mon invité à 6h40. L'Europe spatiale, Émilie Dez, s'apprête à lancer Quantum, le premier satellite commercial flexible qui pourra être reprogrammé en orbite.
Le lancement aura lieu aujourd'hui depuis la Guyane française. Construit par Airbus Defence Systems, ce satellite nouvelle génération de plus en plus numérique pèse 3,5 tonnes et il est capable d'être reprogrammé en orbite pour différentes missions lors d'Autriche.
À tout moment, ce satellite pourra être reconfiguré et desservir n'importe quelle région du globe, contrairement à la plupart des satellites existants. À bord, une nouvelle antenne lui permet de changer de zone géographique tout en restant fixe dans le ciel à 36 000 km d'altitude. Exemple, une compagnie de paquebots pourra utiliser ce satellite pour fournir un internet haut débit à ses clients. Des forces armées en intervention dans un pays étranger sous l'égide de l'ONU pourront aussi communiquer dans n'importe quelle zone du monde. Explication avec Elodie Vio, la directrice des télécommunications à l'Agence spatiale européenne.
Avec ce satellite, on va encore à une étape plus loin. Le faisceau du satellite est capable de faire des spots et des zones locales ou alors d'aller vers des zones plus étendues sur la Terre pour un service plus étendu et d'adapter ça en temps réel.
Car en effet, la reconfiguration de ce satellite pour une nouvelle mission ne prendra que quelques minutes. Le coût de cet appareil s'élève à 200 millions d'euros avec à la fois un financement privé et public, dont 80 millions d'euros investis par l'Agence spatiale européenne.
Lors de Triche pour Europe 1.
On termine ce journal en musique avec la sortie aujourd'hui très attendue par les fans du nouvel album de Billie Eilish.
Oui, très attendue 2 ans après When We All Fall Asleep, Where Do We Go, son premier album au succès planétaire. Et si la chanteuse qui chante ses angoisses se dit être plus heureuse aujourd'hui, ses chansons sont toujours aussi profondes et témoignent encore de son anxiété et de ses amours déchus. Angèle Châtelier.
You were nothing but a lost cause.
Tu n'es rien d'autre qu'une cause perdue. Et ce n'est plus comme avant, chante ici Billie Eilish dans Lost Cause, extrait de son nouvel album. Dans NDA, elle s'épanche sur les difficultés rencontrées quand on est célèbre. Loin d'être joyeuse, et pourtant, le deuxième album de Billie Eilish s'appelle Happier Than Ever, plus heureuse que jamais. Peut-être parce qu'elle a fini par accuser le coup d'être devenue en seulement 2 ans une star planétaire, aux dizaines de récompenses. À 19 ans, elle est aussi la première chanteuse née dans les années 2000 à être classée numéro 1 aux États-Unis. Depuis quelques mois, elle a également totalement changé de look, passant de ses cheveux verts et ses vêtements amples, meilleurs habits pour cacher ses failles, à une jeune femme blonde platine, glamour et apprêtée en une du magazine Vogue. Billie Eilish semble plus heureuse que jamais donc, mais ne renie pas pour autant dans ce deuxième disque ce qui a participé à son succès. Écrire des chansons sombres, aux mélodies ténébreuses, ce qui a fait d'elle la tête d'affiche de toute une jeune génération désenchantée. Pour preuve, son premier album s'était vendu à des millions d'exemplaires.
Angèle Châtelier.
Dans le journal d'Émilie Dez. Merci beaucoup, Émilie. Il est 6h13 sur Europe 1.